Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
17h03 sur la route du Tour de France, la 15e étape, nous sommes désormais dans le final alors que les hommes de tête viennent d'entrer dans le département de l'Aude. Dans une descente à 37 km de l'arrivée, ce sont deux Français qui sont en tête et qui sont pourchassés évidemment par le peloton. Pierre-Yves, le top course.
Et qui nous font plaisir, Alexis Goujard et Benjamin Thomas. On a un petit peu grogné, on était un peu ronchons sur les Français. Et bien c'est superbe là ce qu'ils font, ce qu'ils tentent, c'est compliqué évidemment puisqu'on est qu'à 36 km de l'arrivée, mais Alexis Goujard et Benjamin Thomas ont profité de la fin de la côte des Camas pour placer une accélération. 22 secondes derrière eux, il y a le peloton maillot jaune et 1 minute 20 derrière eux, toujours le même écart, 1 minute à combler pour la plupart des sprinteurs qui ont été lâchés dans cette côte des Camas, à l'exception de garçons comme Dainese pour la DSM. On trouve toujours dans ce groupe également Jérôme
Philipsen ou Florian Sénéchal, c'était une de mes grosses cotes. Il est toujours là. Alors, il a plus beaucoup de coéquipiers, mais il est toujours dans le groupe maillot jaune.
Voilà. Philipsen, qui était ton favori pour l'étape d'aujourd'hui.
Cyril aussi.
Qui est un sprinter et qui passe bien les bosses.
Mais il a plus beaucoup de coéquipiers non plus. Donc, lui, doit s'appuyer sur le travail de Trek Segafredo ou de DSM pour essayer de rejoindre Alexis Goujard et Benjamin Thomas.
Les sprinters, si l'arrivée se fait au sprint, devront faire sans leur poisson pilote, sans leur train habituel, a priori. Hein.
Ouais, là, c'était vraiment sauf qui peut dans cette bosse entre les chutes de Kreuzberg, Vingegaard et la montée très rapide de l'équipe Trek Segafredo. Il y en a eu un peu partout sur la route et ils ont perdu pas mal de coéquipiers. On a toujours Wout van Aert aussi, un sprinter qu'on a pas cité. Donc là, il y a plus beaucoup d'équipiers. Ça va être chacun pour soi dans le sprint.
Mais on espère évidemment que ça n'arrivera pas au sprint et que nos deux Français pourront viser la victoire d'étape. Ils possèdent 25 secondes d'avance. On va sur la moto RMC avec Arnaud et Marco qui sont dans le final eux aussi.
Et attention parce que c'est une descente quand même, je vous le disais tout à l'heure, relativement périlleuse, relativement technique, et ça continue ainsi encore pendant quelques kilomètres. On est toujours dans des parties abritées pour les deux hommes, donc qui a pu reprendre un petit peu de champ, notamment dans ces sacs qu'ils en avaient perdu du temps. Ils ont réussi à reprendre quelques petites secondes là depuis quelques kilomètres et ça continue à descendre, mais attention parce qu'il va rester quand même une longue partie plate en cette fin d'étape, donc c'est loin d'être fait pour nos deux Français, même si c'est vrai, ils ont eu au moins le panache de tenter.
Exactement, ils ont eu le panache de tenter. Pour l'instant, l'écart est à peu près stabilisé. Jérôme, ils ne perdent pas trop de temps.
L'écart est stabilisé, mais là, on peut pas dire que le peloton il contrôle sur Alexis Goujard et Benjamin Thomas. Ils roulent à la même vitesse. Point. Ils sont les deux devant, sont à bloc. Derrière, ils sont à bloc aussi. On va regarder quand même parce que j'ai des drapeaux vers la ligne d'arrivée en visu. Ça bouge pas mal. Le vent semble se lever un petit peu. Peut-être Arnaud pourra nous dire s'ils l'ont plutôt défavorable et si c'est un peu exposé. Mais je pense que dans les 10 derniers kilomètres, faudra quand même faire attention à ce petit.
28 secondes d'écart, ça continue de monter pour nos deux échappés français. Benjamin Thomas, double champion de France du contre-la-montre, Alexis Goujard de la formation BNB Hotel, qui tentent leur chance et qui vont essayer d'aller chercher cette victoire. Christophe. Ah, le micro, on va te l'ouvrir.
Ouais, ouais, ça va être bon.
C'est tout bon, merci. Ouais, à mon avis, les deux coureurs français, Alexis Goujard et puis Benjamin Thomas, ont eu carte blanche de leurs équipes pour pouvoir aller de l'avant, aller chercher la victoire d'étape qui nous manque tant, qu'on l'on veut, qu'on l'on souhaite. Ah. Et je suis sûr qu'avec ce final, ce vent, ce côté favorable va donner ma foi l'excellence à ces deux coureurs qui sont à l'avant et qui vont résister, j'en suis sûr.
Ah, on l'espère, évidemment.
Tiens, on a Julien qui est dans le coin là, et qui va pouvoir nous préciser aussi, lui qui a vécu.
Il est dans la piscine avec des supporters tout à l'heure. Hein,
on s'est rafraîchi.
Ça fait du bien, non? Tu t'as mis les pieds dans l'eau.
T'es pas terrible.
Tu as quand même loupé Léon Marchand, je te signale.
Je sais, mais je vous ai écouté avec attention.
Bon. Vous étiez excellent. On n'a pas dit trop de bêtises sur la natation.
Non.
On peut pas. Julien, c'est très très chaud sur la route là.
Très très chaud et vous parliez de vent tout à l'heure dans les derniers kilomètres. On a ouvert les vitres à ce moment-là et c'est surtout du. On avait l'impression d'être dans un sèche-cheveux quoi. Avec une chaleur, voilà, évidemment. Ah.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Une intrusion dans le
camion. C'est incroyable. Il y a des manifestants qui viennent.
Interruption de course.
C'est incroyable. Julien Richard qui aujourd'hui fête ses 40 ans et qui a le droit à la remise du maillot. On va peut-être entendre la petite musique habituelle du protocole. Je suis sûr qu'en régie à Paris ils ont ça. Voilà. La musique du protocole.
Ah, oui, c'est pas rien quand même. Meilleur grappeur du monde.
Je suis pas sûr que je rentre à l'entraînement.
Non, on va essayer, on va essayer.
Il va falloir faire le régime.
On profite de Laure et Thibaut qui sont là pour le protocole. Alors, comment ça se passe d'habitude? Ben, on ouvre le maillot. Julien, on va voir si tu peux, rentrer dans ce maillot. On précise que Laure et Thibaut.
J'ai pas couru, donc il fait pas chaud, donc on transpire pas du tout.
Laura, j'ai dit Laura. Laura et Thibaut qui remettent le maillot de meilleur grimpeur. Maillot à quoi?
Alors qu'il fête un anniversaire particulier puisqu'il a 40 ans aujourd'hui. Et ça se fête évidemment à 40 ans. Je ne sais pas si on peut être encore meilleur grimpeur du Tour de France, mais ça va, ça lui va. Tu rentres plutôt pas mal hein, dans ce maillot. Je vais pas l'essayer moi.
Il peut plus respirer, mais
voilà, j'ai 10 secondes d'autonomie de respiration pour vous dire merci beaucoup et je suis très heureux de passer ce cap avec vous.
On va demander un petit mot à Laura puisque dans quelques minutes vous allez vous préparer. Laura, venez puisqu'il y aura la remise officielle du maillot. C'est votre travail de la journée. Voilà, ça se précise pour vous aussi, puisque dans 32 km, l'arrivée aura lieu. C'est un moment un peu particulier et un peu différent pour vous actuellement, puisque vous n'avez plus ce moment un peu privilégié avec les coureurs où vous pouvez discuter à cause du Covid. Voilà, vous avez plus ce moment de rencontre et d'échange.
Ah oui, c'est vrai qu'en 2019, du coup, je l'avais fait déjà avec Leclerc à l'époque. On avait plus de contacts, il n'y avait plus cette bulle, etc. Donc on avait l'occasion de discuter un peu avec eux, d'être à proximité. Et là, c'est différent. Mais par contre, on ne fait pas que ça dans la journée.
Oui, je me doute.
Alors, il y a la route. Alors, juste une petite info. Christophe Moreau, là, qui a disparu, il est derrière. Vous savez, Christophe Moreau a rencontré son épouse qui était hôtesse sur le Tour de France. Bon, il y a quelques années. Hein, donc voilà. Donc on ne sait jamais. Il peut y avoir des mariages aussi sur le Tour de France.
et le reste du travail, alors, c'est quoi?
Alors, en fait, on est divisé en deux équipes. On a une partie de l'équipe qui est à l'arrivée pour l'accueil des invités. Et l'autre qui est le matin, donc au départ, pour l'accueil des invités aussi. Et donc un jour sur deux pour nous les filles, et puis pour le garçon c'est tous les jours, on fait le podium. Mais il y a toujours cette partie d'accueil invité qui est plus présente même dans la journée, parce qu'effectivement ça dure quelques minutes le podium, et après on a le reste de la journée qui est occupé par d'autres missions.
Voilà, et maintenant un hôte et une hôtesse, voilà, pour équilibrer effectivement, parce qu'il y avait eu quelques polémiques à une époque, donc on a équilibré la remise des maillots. Donc vous avez déjà...
On a notre hôte également qui est là. Alors je connais pas ton prénom.
Thibaut.
Au micro, Thibaut.
Et il y a une certitude, Thibaut, c'est que vous savez déjà qui aura le maillot de le meilleur grimpeur tout à l'heure. Oh, le vrai, pas Julien Richard, évidemment. Ça sera Simon Gaëchke.
Maintenant qu'il l'a, c'est lui. Hein. Et le podium tous les soirs.
Donc vous remettrez tout à l'heure le maillot à Simon Gaëchke.
Voilà, bah je n'avais pas encore l'information, mais effectivement, on l'a avec nous depuis plusieurs jours.
Voilà. Bon, il est sympa, il discute un peu avec vous quand même,
avant,
non?
Qui a été fidèle au poste. Voilà.
Et qui a abandonné aujourd'hui.
Qui a abandonné aujourd'hui pour des raisons de Covid, mais on a appris ça tout à l'heure. Ouais. Et non, on ne discute pas avec lui, on n'a pas l'autorisation.
Ouais, c'est ça, c'est le changement.
C'est tristouné quand même, hein, par rapport à avant, où effectivement, il y avait quand même contact avec les coureurs. Il y avait le petit bisou, évidemment. Alors peut-être pas pour les garçons, je ne sais pas comment ça se passe.
La poignée de main.
La poignée de main, bien sûr. Maintenant, on tend le point. Voilà.
Et même pas, du coup,
l'édition. Non, non. Et ben, on va vous laisser repartir au boulot, parce que là en plus, il faut changer, c'est ça? Vous devez mettre l'habit de cérémonie pour monter sur le podium.
On a quelques instants pour échanger avant de rejoindre le protocole.
Bon, il reste 31 km. Vous avez encore un petit peu de temps. Ça va être bon. On vous remercie évidemment beaucoup pour cette surprise.
Merci
pour Julien. Voilà. En plus, il est customisé puisqu'il a son nom sur le maillot. Alors, ça, c'est vraiment unique, forcément. Avec son surnom, même Jules Rich Bigou, parce qu'il avait tellement bronzé qu'il était couleur fraise et couleur vanille. Voilà, donc c'est pour ça, Bigou, ça marquera pour Julien Richard ses 40 ans aujourd'hui.
Il pourra offrir le maillot de meilleur grimpeur à ses enfants, parce que je crois que tu ne vas pas tenir longtemps dans ce maillot.
Je les ai aperçus.
Ils sont là pour venir fêter l'anniversaire de leur papa. Ça, c'est beau. Toute la famille Richard débarque. Merci à tout le monde. Merci de nous avoir rejoints dans ce camion RMC. On vous souhaite une bonne cérémonie protocolaire tout à l'heure pour la remise du maillot à pois sponsorisé par les centres Leclerc. Donc pour Simon Gaëchke, voilà, tout à l'heure le meilleur grimpeur.
On sait qui est le meilleur grimpeur, mais on ne sait pas qui va gagner cette étape. En tout cas, il y a une petite poignée de main entre les deux hommes à l'avant, Alexis Goujard et Benjamin Thomas, les deux Français qui font le spectacle à 30 km de l'arrivée. Ils se sont serrés la main parce qu'ils se sont dit voilà, nous on va à fond, on va pas essayer de se regarder pour le moment, on verra bien comment ça se passe derrière. Ils possèdent actuellement 35 secondes d'avance sur le peloton.
35 secondes, bah, ça commence à devenir intéressant, Jérôme, non ?
Ça devient intéressant parce que l'écart s'est dans un premier temps stabilisé. Après, il a baissé un petit peu et là, il a réaugmenté. Donc, on sent que les deux coureurs de tête, Goujard et Benjamin Thomas, font jeu égal, voire même un petit peu mieux que le peloton. On va voir, on a vu l'équipe Bora aussi venir donner un coup de main. Est-ce que Van Poppel est toujours dans le peloton ou est-ce qu'ils vont plutôt jouer Marco Haller ? On sait qu'ils ont deux coureurs rapides dans leur équipe. On verra, mais il y a quand même pas mal de coureurs pour assurer la poursuite. Il reste encore 29 km. On espère que nos deux Français tiennent le coup.
Ouais, c'est chaud cette poursuite, mais en tout cas c'est magnifique hein, ce que réalisent Benjamin Thomas et Alexis Goujard. On a l'impression d'être à Cholet pour un championnat de France ou sur la classique Loire-Atlantique où Alexis Goujard a souvent brillé. Mais là, on est ravis, hein, il faut le dire, Jérôme.
On est ravis. On a dit qu'on avait un peu égratigné les Français ces derniers jours parce que justement ils n'allaient pas dans des coups comme ça, des coups de baroudeur. Et là, on a vraiment deux très grands baroudeurs, deux très grands rouleurs. Pourquoi pas, s'il y en a bien deux qui peuvent tenir tête au peloton, c'est bien ces deux-là.
Cyril, tu connais bien Alexis Goujard, que tu avais sélectionné lorsque tu étais justement le sélectionneur de l'équipe de France. Tu lui as un peu tapé sur les doigts lors des précédentes journées. Aujourd'hui, eh bien, il est peut-être en train de réussir un coup fabuleux.
Bien, je l'espère pour lui parce qu'il court tellement à l'envers depuis des années, alors que ses vraies qualités, bien, c'est celles qu'il est en train de démontrer actuellement avec Benjamin Thomas. C'est un homme qui est capable de faire des différences dans le final, mais pour faire des différences dans le final, il ne faut pas sauter sur tout ce qui bouge dans les 15 premiers kilomètres.
On regarde aussi ce qui se passe derrière avec les garçons qui étaient lâchés tout à l'heure et notamment quelques sprinteurs. J'ai l'impression que ça peut le faire pour ce groupe-là qui n'est pas très très loin. J'aperçois un Hugo Hofstetter qui doit être à une trentaine de secondes derrière le peloton et sans doute en compagnie de Dylan Groenewegen. Voilà, il doit y avoir à peu près 24 secondes de retard pour le groupe Dylan Groenewegen sur le peloton. Donc on pourrait avoir un regroupement avec tous les sprinteurs et un sprint massif, à moins Christophe, que nos deux Français réussissent à jouer un mauvais tour là à tous ces garçons.
Ils peuvent vraiment le faire, hein. Vous l'avez dit bien distinctement, c'est vraiment deux coureurs de grand talent qui ont l'habitude de faire des grosses parties de manivelle comme ça, des super puissants qui s'entendent très très bien, qui se connaissent très bien également, et sur des routes rugueuses, regardez, un petit peu difficiles, derrière il va falloir vraiment s'employer au niveau des équipes de sprinteurs pour aller les chercher. En tout cas, je veux y croire parce qu'on en a besoin et on le veut. Allez les copains, allez les Français.
Oui, on ne veut pas rester sur une année blanche. Ça n'a eu lieu que deux fois, on le rappelle, 99 et 1926. Cyril, tu t'en souviens de 1926 ? Non, je peux.
1926, mon père avait 6 ans.
Mais en 99, en revanche, on travaillait déjà ensemble avec Cyril.
Oui.
La dernière fois que les Français ont fait chou blanc sur les routes du Tour de France. Donc voilà, ça fait quelques années maintenant. 27 km 300 de l'arrivée, 36 secondes, 35, 36 secondes. Ça tient. On y croit, Jérôme.
Oui, on y croit forcément. Après, faudrait pas que le groupe de sprinteurs rentre parce que ça ferait encore de la main-d'œuvre supplémentaire pour assurer la poursuite derrière, notamment les coéquipiers de Groenewegen, voire de Caleb Ewan. Donc on espère que le groupe de sprinteurs rentre pas sur le groupe maillot jaune et bien sûr que le groupe maillot jaune ne rentre pas sur Benjamin Thomas, Alexis Goujard.
Allez, 27 km, on se retrouve dans quelques instants pour la fin de cette 15e étape du Tour de France. Il s'est passé pas mal de choses finalement. On vous rappelle l'abandon de Kreuzweil tout à l'heure, victime du chute. On vous rappelle également la chute du maillot jaune qui a pu reprendre la route mais qui est un petit peu touché sur l'épaule gauche. On verra la gravité de cette chute tout à l'heure. En tous les cas, pour l'instant, on est très concentré avec peut-être une première victoire d'étape française tout à l'heure dans 27 km. À tout à l'heure.
RMC Intégral Tour.
À 25 km de l'arrivée de cette 15e étape du Tour de France, en direction de Carcassonne, sous la fournaise, plus de 40 degrés aujourd'hui sur les routes de ce Tour. Et deux Français sont en tête, mais ils ne possèdent plus que 24 secondes d'avance sur l'avant-garde du peloton. Pierre-Yves, on fait un top course.
L'intégral four, le top course, 25 km encore à parcourir, 23 secondes d'avance pour les deux hommes de tête, Benjamin Thomas en compagnie d'Alexis Goujard, alors que ça lutte à tous les étages pour s'accrocher, notamment dans le peloton, avec des attaques encore à l'avant. Les attaques, elles sont dues à l'équipe de Trek Segafredo, de Mats Pedersen, Wout van Aert qui saute dans la roue juste derrière. Il y a le maillot jaune qui surveille également parce que à l'avant, Mathieu Burgodeau est parti avec un homme de la Bora, 25 km km à parcourir et ça se bat à tous les étages. Il y en a partout parce qu'à l'arrière il y a des garçons qui sont à combien, 40 minutes. Un garçon, Morkov, qui lutte, et puis des sprinteurs qui ont aussi lâché, qui sont à 10-15 minutes maintenant du peloton. On essaye d'accélérer, ça va être quasiment tout en descente et en plat maintenant jusqu'à l'arrivée.
Avec Tadej Pogacar qui est très attentif, qui est dans la roue de Wout Van Aert qui a accéléré. Vingegaard se trouve deux positions derrière Pogacar. On s'observe évidemment et il ne s'agirait pas qu'il y ait quand même un coup de Trafalgar alors que ça se relève là, ça se relève à l'instant même. Burgodo qui va peut-être en remettre une petite, 23 secondes d'écart entre les deux Français et un troisième qui est en train de rouler sur eux, c'est Burgodo. C'est incroyable, on n'a pas vu les Français rouler depuis le départ. Il suffit qu'il y en ait deux devant pour qu'il y en ait un autre qui roule derrière eux. C'est terrible.
Parce qu'il faut le dire, Mathieu Burgodo fait le boulot pour le garçon qui est juste sur sa gauche, qui est en train de boire et qui s'appelle Peter Sagan. Quinn Simmons lui en remet une couche puisqu'il a trois positions derrière Mats Pedersen, le champion du monde 2019. Il n'y a plus maintenant qu'un homme quasiment pour emmener son sprinter.
Oui, c'est ça. Là, on voit Quinn Simmons qui roule. Ça doit être Sbaraglic derrière lui pour Philipsen et Burgodo, bien sûr, pour Peter Sagan. Alors oui, Burgodo est français. Il y a deux Français à l'avant, mais les intérêts des équipes, on sait comment ça se passe.
Oui, mais nous, on veut des équipes nationales.
Non, donc bien sûr chaque équipe a ses propres intérêts. C'est normal que Burgodo roule. C'est peut-être le dernier coureur en compagnie de Peter Sagan. Peter Sagan a toujours été dans le groupe maillot jaune, donc il a retrouvé ses jambes. Mais c'est une arrivée qui pourrait lui convenir, surtout qu'il manque pas mal de purs sprinteurs.
Exactement, puisque les grosses cuisses, les sprinteurs habituels, ont été largués dans les multiples ascensions du jour. Alors qu'on voit Alexander Kristoff, le coureur de la formation Intermarché, qui semble souffrir énormément. On l'a vu tout à l'heure.
Si vous savez pas ce que l'expression se faire mal à la gueule veut dire, faudra regarder le replay d'Alexander Kristoff parce que là, il nous donne une bonne leçon.
Incroyable.
Ah oui, il s'est
dépouillé.
Carcassé.
Ouais.
Ouais. Il savait qu'en balançant, en basculant, je veux dire, il restait 300 mètres environ. Là, il s'est battu, mais alors il s'est explosé pour essayer de passer. Maintenant, il va falloir qu'il récupère pour aller faire le sprint.
On a parfois le goût du sang dans la gorge quand on fait des efforts tellement violents. Là, on devait être à la limite pour Alexander Kristoff, Cyril.
Au-dessus de la limite.
Ouais, on rappelle qu'au-delà de 44 degrés, il y a quand même danger pour l'être humain, surtout lorsqu'il est en train de faire des efforts physiques, comme c'est le cas depuis le début de cette étape.
On est à 37 là, ça va.
Ça a redescendu. Une fraîcheur incroyable. La moto RMC, Arnaud, à l'avant de la course.
On est même à 35 pour tout vous dire. Fraîcheur assez incroyable effectivement. Quand on descendait tout à l'heure. Ah oui, mais non, franchement, on a eu un petit coup d'air frais là, c'était pas mal. Pour vous dire simplement qu'on va avoir quand même encore une longue partie descendante. On a environ 8 km de descente. J'ai calculé, c'est une descente environ à 4% de moyenne. Et puis après, il y aura quand même encore une partie de 13 km de plat. Ça devrait quand même être a priori plus favorable à des hommes qui s'organisent derrière, même si on parvient à maintenir un écart assez important en bas, et ça va quand même profiter très certainement à plusieurs équipes qui peuvent s'organiser derrière pour rouler derrière les hommes de tête.
RMC
Intégral Tour.
Et il reste encore 21 km à parcourir dans cette 15e étape du Tour de France, alors qu'on s'asperge avec beaucoup d'énergie dans le peloton qui roule derrière les deux hommes de tête. On vous rappelle la composition de ce groupe de tête. Oui, il n'y a 100% de Français dans ce groupe de tête, dans ce groupe d'échappés. Benjamin Thomas de la formation Cofidis et Alexis Goujard de B&B Hôtel. 24 secondes d'avance au dernier pointage, Pierre-Yves.
Et oui, un garçon de la région, Benjamin Thomas, le Tarnais, en compagnie du Normand Alexis Goujard, actuellement en tête, 25 secondes toujours d'avance pour Alexis Goujard, né à Rouen, 22 secondes désormais, et toujours la chasse réalisée par les hommes de Mats Pedersen, très bien placé également la garde rapprochée de Geraint Thomas, celle de Jonas Vingegaard, même si elle s'est bien amenuisée, on ne voit que deux hommes à côté du maillot jaune actuellement. Jérôme, c'est aussi les effets de cette journée, on le rappelle, le non-départ ce matin de Primoz Roglic et l'abandon tout à l'heure sur chute de Steven Kruijswijk.
Plus Tiche Benot qui est tombé aussi en même temps que Vingegaard, qui n'a pas réussi à réintégrer le peloton. Donc avec Vingegaard, pardon, il lui reste plus que Van Aert et Christophe Laporte.
Effectivement, ce sera l'un des éléments clés de cette 15e étape du Tour de France. Vingegaard qui est donc affaibli par l'abandon de ses équipiers. La banderole des 20 derniers kilomètres pour la formation Trek qui évidemment chasse pour Pedersen qui a déjà remporté une étape. Franchement, ces Danois, commence à nous
briser menu.
Nous les briser.
Oui, mais pour l'instant, c'est pas fait. Il a pas encore gagné l'étape. Sous la banderole, il y avait 26 secondes. Et pour l'instant, la poursuite n'est quand même pas très tendue. Alors, bien sûr, il reste encore 25 km, mais nos deux hommes de tête, là, ne sont pas encore morts.
Et il y a un équipier de Goujard qui s'est mis juste derrière les trois hommes de tête pour essayer de casser la poursuite. Hein. C'est bien joué, ouais, ça.
C'est bien, faut du rognon, parce que des fois, on se fait jeter quand on fait ça.
Du rognon.
C'est quoi ça?
Du rognon, faut du rognon.
Parce que souvent, tu te fais jeter grave, parce qu'ils aiment pas ça quand tu roules à bloc et t'en as un qui vient de la
Oui, mais c'est le jeu, t'as le droit de le faire, n'importe qui doit le faire. C'est son rôle.
Je suis d'accord et bravo à celui qui est en train de le faire, faudra un petit peu l'identifier.
Il nous faut du rognon, celle-là, tu la notes. Hein,
dans la série des expressions, exactement. Il va venir briser les efforts devant des équipes de sprinteurs. 23 secondes, toujours, on parlait de poursuite. Cyril Benjamin Thomas, c'est un spécialiste de la piste. Il connaît ces efforts-là, mais là, c'est un peu long, il reste 10 km.
Mais Goujard également, au départ, il faisait la poursuite également.
Et lui, il a aussi l'expérience d'avoir gagné.
Il a quitté un peu trop tôt.
Il a gagné, lui, sur les grands tours en 2015, victorieux sur la Vuelta, une étape qui l'amenait du côté de Avila, superbe ville d'Avila, ville fortifiée Avila, ville fortifiée comme Carcassonne. Et s'il y avait un signe aujourd'hui, à 18 km de l'arrivée, on regarde tout ce qui peut être en faveur des Français. 24 secondes d'avance pour les deux hommes de tête.
La moto RMC, Arnaud à l'avant de la course, juste devant nos deux Français.
Ouais, sur une superbe route descendante et on va pas tarder, on l'aperçoit d'ailleurs, la cité médiévale de Carcassonne tout au fond, là-bas une partie encore descendante. On est cette fois-ci, on est sorti de cette forêt, on a été très longtemps dans la forêt, on est cette fois-ci à découvert. J'ai pas l'impression, puisque Jérôme, tu me posais la question tout à l'heure, que le vent soit une donnée particulièrement importante, en tout cas pas dans cette partie descendante pour l'instant, vers la vallée, enfin vers la vallée, vers le plat et vers la ville de Carcassonne.
Est-ce que c'est sinueux actuellement? Comment est la route? Est-ce que les deux hommes sont à portée de fusil entre guillemets du peloton, Arnaud?
Ah oui, c'est en visuel, hein, c'est en visuel. Là, je te dis, la route est à découvert. Ce sont des, pour le coup, de longues lignes droites, de longues courbes. Donc tout se voit. Le peloton aperçoit les hommes de tête. Ça, c'est clair.
17 km encore, 17 km d'espoir peut-être pour Benjamin Thomas et Alexis Goujard, nos deux Français échappés tout à l'heure lorsque les échappés matinaux ont été repris et qui ont réussi à faire le jump et à partir devant, même si leur avance n'est jamais montée au-delà des 35 secondes, il reste encore 21 secondes.
On a vu un signe très rare, Jérôme et Christophe, tout à l'heure, c'est la poignée de main entre les deux hommes alors qu'ils venaient de partir. Un pacte est signé entre ces deux garçons qui ne sont pas dans la même équipe. D'ailleurs, d'habitude, c'est un geste qu'on voit quand ils vont être rattrapés.
Ben ouais, c'est ça, c'était pour se donner du courage, pour dire allez copains, on y va, on donne un grand coup de collier, on se dégonfle pas et surtout on va jusqu'au bout de notre histoire. Donc chapeau à eux, puis regardez, ils résistent très très bien, même si voilà, les écarts sont toujours très très tendus.
20 secondes, hein, ça n'a jamais monté au-dessus des 30 secondes. Jérôme, tu mettrais une petite pièce là?
Oui, je mettrais une petite pièce parce que la poursuite derrière est bien organisée, mais on sent qu'ils sont tous à bloc. Hein. On a un DSM, on a Nils Polite qui était déjà échappé, donc est-ce que c'est relais vont être vraiment efficaces. On voit que les treks, c'est eux qu'on fait la décision dans le dernier GPM, ils sont un peu en bout de course. Et on sait jamais, hein, rappelez-vous, avec l'échappée de Mats Pedersen, une chute derrière et ça peut vite tout désorganiser. Donc pourquoi pas, faut qu'ils y croient jusqu'à l'arrivée.
C'est incroyable de voir Nils Polite à l'avant, ouais, alors qu'il exactement. A fait signe il y a quelques minutes qu'il était pendu. Il a fait signe avec
là, il jette
son doigt.
Son dernier venin, là, il jette tout ce qui lui reste dans le moteur.
La même notion de la pendaison, à mon avis.
il était pendu, mais la corde a cassé.
Ouais, il est ressuscité, là. Quel coureur incroyable. On parle souvent de Wout van Aert, mais lui, ça fait partie des machines aussi de ce peloton.
Ah, bien sûr, quand tu fais deuxième d'un Paris-Roubaix sur des parcours comme ça qui sont vallonnés, où il peut déployer ses grands compas comme ça, bien sûr qu'il est très efficace. On parle souvent des leaders, mais les coéquipiers sont tout aussi importants.
Allez, 15 km 900 de l'arrivée et l'écart qui vient de descendre pour la première fois sous les 20 secondes. 19, 18 secondes avec toujours les treks qui chassent derrière Goujard et Thomas. Vont-ils réussir à garder quelques secondes d'avance sur la ligne? Ça semble très compliqué, de plus en plus compliqué pour nos deux Français, alors que l'on s'approche de Carcassonne. On revient dans quelques instants pour le final de cette étape.
RMC jusqu'à 18h.
Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Dans le final de cette 15e étape du Tour de France, on approche à grands pas désormais de Carcassonne, où sera jugée l'arrivée, donc dans 12 km 300 maintenant. Toujours deux Français en tête, mais leur avance se réduit à grands pas maintenant. Encore 12 secondes pour Thomas et pour Goujard, Pierre-Yves.
Ils poursuivent leur effort au maximum. De toute façon, ils ont fait ce pacte en se disant on y va, on verra bien. Nous, on s'entend bien, on se relaye au maximum. Actuellement, c'est Alexis Goujard qui est devant. Benjamin Thomas dans l'aspiration, qui dans quelques instants va aller aider. Et c'est bien ce qui se passe actuellement, parce que derrière, on s'est relevé au niveau du peloton à 12 km de l'arrivée. Il n'était plus qu'à 10 secondes, prêt à être croqué par les hommes, notamment d'Ineos qui s'était placé à l'avant. On parle beaucoup dans les oreillettes là, Jérôme. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, on sait que dans 2 km, les coureurs vont tourner sur leur droite. On a parlé un petit peu du vent. Est-ce qu'il va être suffisamment puissant pour créer des bordures? Mais ils vont prendre le vent plus de côté à 9 500 km de l'arrivée. Mais on voit que le peloton a vraiment temporisé là. Il s'est même carrément relevé. Il faut vraiment que les équipes de sprinteurs reviennent se mettre tout de suite à l'avant sur des coureurs comme Benjamin Thomas, Alexis Goujard. À 10 km de l'arrivée, il ne faut pas leur laisser 15 ou 20 secondes.
Très étonnant cette image. On pensait que les deux hommes allaient être croqués vraiment. Ils n'étaient plus qu'à 10 secondes devant. Et puis là, d'un seul coup, tout le monde se remet en ligne dans le peloton. Un Ineos, un Groupama, un Jumbo, un Arkea, un UAE et un Movistar. Pogacar en deuxième ligne, Jonas Vingegaard tranquille. Et là, ça ne roule plus. 17 secondes à nouveau.
Qui continue de monter, qui monte à nouveau puisqu'il était redescendu tout à l'heure à 10 secondes. C'est peut-être la chance de leur vie pour Goujard et Thomas à 11 km de l'arrivée. 19 secondes désormais. Les hommes de la formation Ineos qui veulent peut-être accélérer et tenter un coup de bordure. On va retrouver la moto RMC. Arnaud à l'avant.
Oui, les deux hommes de tête qui sont pour l'instant sur une partie de route, voilà, qui rend beaucoup moins bien actuellement. On est sur les fameuses parties de route arrosées. On va prendre sur la droite dans quelques instants. Je vais essayer de vous dire justement si on voit du vent. Ça s'est un petit peu levé par rapport à ce que je vous disais il y a quelques minutes. De là à jouer un rôle, je ne sais pas, mais on va voir ça dans quelques instants.
Mais Arnaud, dans 1,5 km, normalement, tu vas avoir avec Marco un virage sur la droite. Vous serez à hauteur de Conques. Conques sur Orbiel.
Oui, tout à fait.
Et là, logiquement, il peut y avoir quelque chose au niveau du vent. On a senti que les Ineos avaient peut-être été trop vite dans cette histoire.
Ouais, les Ineos sont.
Je te dirai ça dans quelques instants.
Les Ineos ont démarré dans la descente. Est-ce qu'ils ont voulu se replacer dans un premier temps pour être sûr que quand ils prendront ce virage à droite, ils seront bien placés dans le peloton? Mais on voit quand même que tous les leaders ou les équipes de sprinteurs sont bien vigilants à l'avant. Donc je pense que les informations sont passées dans les oreillettes. On verra ce qui va se passer dans 1 km maintenant.
Ouais, il y a 1 km.
Coureur de la formation Groupama FDJ qui se porte à l'avant du peloton
pour se remettre juste devant Stephen Kung et David Godu. Il était un peu sur la droite, donc il est allé se mettre dans la ligne de ses équipiers et notamment de son leader. C'est peut-être Kron qui a à nouveau des soucis là à l'arrière, lui, ouais, qui ça. Avait eu ce terrible problème mécanique hier alors qu'il était dans la bonne échappée et qui avait eu une crevaison au mauvais moment. 25 secondes d'avance à 10 km de l'arrivée.
Ça remonte l'écart qui est en train de remonter en faveur de nos deux coureurs français. 25 secondes, c'était descendu tout à l'heure à 19 secondes, à 11 secondes même à un moment. On pensait qu'ils allaient être repris et puis d'un seul coup, les poursuivants ont lâché la prise, ont lâché la chasse.
Faut pas trop jouer avec le feu hein, dans le peloton si vraiment ils veulent se disputer la victoire. On a vu que les équipes de sprinteurs ont roulé toute la journée. Ça serait dommage pour eux de se faire piéger maintenant. Après, ça serait tout bon pour nous puisqu'on a nos deux Français à l'avant, mais l'écart continue d'augmenter.
Combien, Cyril?
28 secondes, vent, 90 centièmes.
28 secondes, presque 29 secondes. Donc, Arnaud, oui, tu nous disais le vent?
Oui, non, simplement pour vous dire, voilà, j'ai pris le fameux virage à droite là et je vous confirme le vent de côté. Alors, je sais pas s'il est suffisamment puissant, il donne l'impression en tout cas d'être relativement fort, au moins par petites rafales. Il s'engouffre dans les drapeaux là que je viens de voir sur la gauche de la route. Donc voilà, il y aura un vent de côté, de trois quarts arrière, selon l'orientation de la route dans quelques instants pour les hommes de tête et pour le peloton quelques secondes après.
Tous les leaders du classement général se portent à l'avant-garde avec notamment Christophe Laporte qui emmène dans sa roue Vingegaard. On voit David Godu bien placé, Geraint Thomas également sur le côté gauche de la route. 27 secondes d'écart, dernier pointage.
Oui, c'est parti là pour ce virage du côté du peloton avec Castroviro dans sa roue, les coureurs de l'équipe Ineos. Et en deux files, on retrouve Jonas Vingegaard en deuxième position. Et les Groupama FDJ sont derrière. Ils savent qu'il y a danger à cet endroit-là. Tout le monde a décidé d'être attentif avec devant eux, à 25 secondes, à 9 km de l'arrivée, deux petits Français qui sont peut-être à la porte de l'exploit, Benjamin Thomas et Alexis Goujard. David Godu en bonne position, en dixième actuellement dans ce peloton.
Et Vingegaard qui n'a plus beaucoup d'équipiers, qui se trouve en troisième position dans ce peloton, emmené par un homme de la formation Ineos. Derrière lui, Christophe Laporte qui emmène Vingegaard. Tadej Pogacar est en dixième position environ, très attentif évidemment à ce qui se passe.
Oui, on rentre à l'instant dans Conques sur Orbiel pour les hommes de tête avec Christophe Laporte en deuxième position dans la roue d'un Castroviro qui est à fond, Jérôme.
Bah, il est à fond, pareil, il va pas tarder à s'écarter. Alors il n'a pas ses coéquipiers directement dans la roue. Voilà, c'est Christophe Laporte maintenant qui prend le relais. On va voir si l'équipe Ineos tente quelque chose parce que c'est ceux qui sont le mieux représentés juste derrière Vingegaard.
Et Pogacar en bonne position, Christophe. Il est actuellement 10-12e sur la gauche de la route.
Voilà, Christophe Laporte qui se retourne pour voir un petit peu ce qui se passe. Il y a toujours des Ineos qui sont pas loin. David Gaudu est un petit peu plus loin derrière Stephen King, me semble-t-il. Ouais. 18 secondes d'écart, ça se réduit. Et malheureusement, on est à 8 km de l'arrivée.
Et oui, forcément, avec cet effort du peloton maintenant, il y a des garçons à l'arrière qui sont lâchés. En revanche, à l'image de Giulio Ciccone, les Ineos qui ont lancé la chasse sur les deux Français qui ne sont plus qu'à 15 secondes devant. C'est dommage, c'est peut-être cette histoire de vent finalement qui va crucifier l'effort des Français.
On l'a attendu, on l'a espéré, notamment au Danemark. Ce vent, il n'est jamais venu. Et aujourd'hui, alors qu'on a deux Français en tête qui peuvent viser la victoire d'étape, eh bien, il se présente aujourd'hui. L'écart qui continue de se réduire, 14 secondes désormais, ils les ont en ligne de mire, là, juste devant.
Oui, mais petite frayeur, Dani Martinez qui a fait un écart à gauche, un écart à droite, il a failli faire chuter tout le monde, ça a failli être strike, là.
Ouais, bah, il a pris son dernier relais, il était complètement cuit, plus trop lucide. Alors, le vent n'a pas l'air suffisamment fort pour vraiment casser à l'avant du peloton, mais en tout cas, ça roule très vite, ça va être compliqué pour nos deux Français.
Et c'est Luc Rowe désormais qui a pris le relais avec Christophe Laporte dans sa roue, Jonas Vingegaard avec toujours les stigmates de sa chute tout à l'heure sur l'épaule, les traces de goudron, et devant, on se relaye à la perfection. 7 km encore à parcourir pour Benjamin Thomas et Alexis Goujard, 14 secondes d'avance dans ce grand bout droit où évidemment le peloton les observe.
Ah ouais, si les hommes du classement général ne se relèvent pas, ce sera cuit dans quelques instants. La moto RMC, Arnaud.
Oui, d'autant que, voilà, vous le disiez, ils les ont en visuel. On est sur une grande ligne droite actuellement, une grande ligne droite de 1 500 km environ. Donc, le peloton semble être tout prêt de croquer les deux hommes de tête. Attention, il va y avoir une partie boisée et puis de nouveau, enfin, une très courte partie boisée. Et puis de nouveau, on sera exposé au vent. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Jérôme. J'ai pas l'impression que le vent soit suffisamment puissant pour créer des cassons derrière.
Alors ça pourrait être le bon côté de la chose. C'est que si à un moment, Christophe, le peloton s'aperçoit que finalement la bordure n'est pas jouable, ils vont encore se relever et ralentir. Et il y a plus que...
l'écart a remonté de 2 à 3 secondes.
C'est ça qu'il faut qu'il se passe maintenant là pour les deux Français.
Bien sûr, Ineos s'aperçoit désormais que ça ne fait pas la différence, que les bordures ne se font pas et que finalement ils favorisent plutôt les équipes de sprinteurs en défaveur de nos deux coureurs français, ce qui est désormais pas logique. En tout cas, il faut laisser un petit peu les sprinteurs faire un petit peu le final parce que la bordure, il n'y aura pas.
Voilà, les équipes de sprinteurs qui d'ailleurs se rapprochent de l'avant-garde du peloton. On voit notamment toute l'équipe Bora qui se présente juste derrière. Luc Rowe qui emmène très lourd depuis un grand moment. Christophe Laporte, équipier de Vingegaard, en deuxième position, le maillot jaune en troisième position. Et voilà, tout le monde se rapproche désormais. On est à 15 secondes d'écart pour Thomas et Goujard sur l'avant-garde du peloton.
Ça n'est pas fini encore pour les deux Français. 15 secondes d'avance à 5 km de l'arrivée. C'est toujours jouable parce qu'il n'y a pas suffisamment d'équipiers pour les sprinters. Et je ne suis pas certain qu'après le passage des 3 km, les équipes de leaders continuent à rouler.
Et surtout que dans les 4 derniers kilomètres, il y a pas mal de virages. Ça va être favorable à nos deux hommes de tête. Il y a des petits ronds-points, des courbes à droite, des courbes à gauche. Et le dernier kilomètre avec deux gros virages. Attention, les deux hommes de tête ne sont pas battus encore.
Oui, parce que là, on le voit, les Jumbo sont devant maintenant. Mais eux, ils se disent, attendez, nous, on fait le train pour le maillot jaune. Mais on n'a pas à rouler comme des damnés sur les deux hommes de tête. On ne va pas chercher la victoire là aujourd'hui. Donc à 5 kilomètres maintenant, la banderole pour les deux hommes de tête qui ont 10 secondes. Tu as lancé ton chrono, Cyril, et tu vas nous dire si c'est conforme.
Il se rapproche.
11 secondes
d'écart donc sur la banderole des 5 derniers kilomètres. Changement de physionomie en tête de course.
C'est la Bora maintenant.
Voilà, c'est les Bora qui
là c'est à l'équipe Bora et Intermarché d'aller rouler. Ils ont encore le sprinter, ils sont en surnombre. C'est à eux d'aller faire l'effort pour boucher les 10 dernières secondes.
On rappelle le sprinter pour la Bora,
Van Poppel.
Dani Van Poppel.
Ou Marco Haller, à voir.
Ah, Alexis Goujard qui lâche. Il n'arrive plus à suivre Benjamin Thomas dans son effort de poursuiteur. Benjamin Thomas qui est parti. On l'avait vu, très en forme il y a un peu plus de 3 semaines maintenant. C'était à Cholet pour le championnat de France. On avait cru un moment qu'il allait pouvoir chercher ce maillot de champion qui finalement est arrivé sur les épaules de Florian Sénéchal. Alexis Goujard est lâché. On va voir si le peloton, en voyant Alexis Goujard se relever, relève lui aussi un petit peu la cuisse. Il reste 4 km d'effort à Benjamin Thomas. Il est comme sur la piste là. Il va chercher un exploit, une victoire, pourquoi pas sur le Tour de France.
9 secondes d'écart pour Benjamin Thomas, le seul Français qui réussit pour l'instant à tenir tête au peloton alors qu'il passe sous la banderole des 4 derniers kilomètres. Arnaud sur la moto. Arnaud ? Non, il n'est pas là. Allez, Benjamin Thomas, avec cette partie un petit peu plus vallonnée, un petit peu plus sinueuse.
Oui, c'est ça. C'est l'avantage, là, maintenant, messieurs, pour Benjamin Thomas. Il est plus en visu. Il peut aller chercher les courbes comme il sait le faire sur la piste. Là, il faut faire jouer toutes ses qualités.
Bien sûr, c'est un très bon vireur, un très bon descendeur en plus, Benjamin Thomas. Donc là, il ne va pas perdre beaucoup de temps. On l'a dit, dans les 4 derniers kilomètres, il y a beaucoup de virages, des ronds-points, des grandes courbes à gauche, à droite. Il faut qu'il donne tout maintenant. Il a repris même quelques secondes, 3 secondes. Il a repris là 11 secondes d'avance.
Alexis Goujard qui est repris à l'instant même par l'avant-garde du peloton. Voilà le rêve qui s'envole pour le coureur de la formation BNB Hotel.
Le champion du monde de l'Omnium 2017 et 2020, champion du monde de l'Américaine 2017, champion du monde de la course au point 2021, spécialiste de la piste et dans un effort de damné sur 3 km 300 encore, il doit tenir tête à tout un peloton. 12 secondes derrière lui, qui le voit, qui veut le croquer, qui veut le manger. Il peut le faire, Benjamin Thomas. Le Tarnais est parti dans un effort dingue aujourd'hui. Pourquoi pas pour enfin ramener une victoire française.
Au bout de l'effort, sous la banderole des 3 derniers kilomètres, Benjamin Thomas qui est bien positionné sur son vélo. Christophe, toi qui es un spécialiste du chrono.
Ouais, c'est un spécialiste du chrono. Il est extrêmement bien posé. Et puis en poursuiteur, il est vraiment dans ses distances idéales pour finir. On voit qu'il tire la langue. Mais imaginez pour l'équipe Cofidis dans le bus qui n'a pas gagné sur le Tour de France depuis 2008. C'est vraiment,
ça
vraiment
doit être un terrible.
Moment incroyable.
Ça doit être terrible dans le bus actuellement et dans les voitures de directeurs sportifs. Là, on doit tout le monde doit être attentif à ce que dit Radio Tour parce qu'on n'a pas forcément vu sur ce qu'il y a dans le peloton. Ah, Benjamin Thomas qui se relève un petit. Il se relève pas, il se retourne plus précisément dans un virage.
Il a raison quand même d'essayer de voir où ça se trouve. Là, actuellement, c'est à 9 secondes.
Ouais, c'est dur pour Benjamin Thomas.
Il ne fait que 2 km.
Il continue d'appuyer comme un damné sur les pédales, la bouche grande ouverte, bien positionné sur son vélo. La bouche, la langue même tirée. Il se retourne, Benjamin Thomas. Est-ce qu'il y croit encore, Jérôme ?
Bien sûr qu'il y croit. Il doit y croire. Il a encore 5-6 secondes d'avance. Il y a 2 km. Le problème, c'est que les équipes de sprinteurs ont encore un peu de main-d'œuvre. Là, on voit l'équipe Total Energy. Ils ont encore 2-3 coureurs. Bora, c'est pareil. Intermarché, pareil. Ça va être compliqué. Mais on le rappelle, dans le dernier kilomètre, il y a 2 virages qui pourraient l'avantager un petit peu.
Ça doit toxiner, là. Ça doit être terrible dans les cuisses de Benjamin Thomas.
Jusqu'en haut des oreilles. Il a des toxines depuis un bon petit moment. Alors, il se retourne. Bien sûr, il essaye de jauger. Là, il gère plus rien, lui. Hein. Il est à bloc depuis qu'il a déposé Alexis Goujard. Maintenant, il faut plus qu'il se pose de questions. Faudrait même plus qu'il se retourne. Mais bien sûr, quand on est juste à l'avant du peloton, c'est difficile.
Ah, ça se regarde à l'avant du peloton. Ça roule un petit peu moins vite. Ils ne sont plus en file. Ils sont 3, ils sont 4 désormais. On se regarde un peu dans les équipes de sprinteurs. On se demande qui va faire l'effort maintenant. Toujours 6 secondes d'avance. À 1 km d'un 500 de l'arrivée pour Benjamin Thomas. Benjamin Thomas penché comme sur la piste dans un effort terrible. Allez, Benjamin, il faut baisser la tête. Il faut y arriver. Il reste encore 1 km 300.
1 km 300 pour Benjamin Thomas qui n'a plus que 5 secondes d'avance désormais sur l'avant-garde du peloton qui s'est remis en chasse, en poursuite derrière le coureur français de la formation Cofidis qui va dans un instant passer sous la banderole du dernier kilomètre. La flamme rouge en vue pour Benjamin Thomas qui prend des précautions dans ce virage sur la droite. Là, la flamme rouge dans quelques instants. La flamme rouge du dernier kilomètre pour Benjamin Thomas. Plus que 3 secondes. C'est terrible.
Ah, ça va être dur parce que c'est légèrement en montée. On l'a vu ce dernier kilomètre, cette flamme rouge. Et il sent bien qu'il ne va pas réussir à faire l'exploit. Benjamin Thomas, un petit ralentisseur là pour lui. Ralentisseur pour les automobiles normalement. Mais aujourd'hui, c'est un ralentisseur pour vélo. C'est un ralentisseur pour le Tarnais. C'est un ralentisseur pour la Cofidis. Car derrière, les équipes de sprinteurs sont en bonne position. 10 mètres, 15 mètres. Et ils vont revenir sur Benjamin Thomas. À moins qu'il reste 500 mètres.
C'est pas fait.
500 mètres pour Benjamin Thomas qui est sur la gauche de la route. Mais le peloton est en train de revenir. Emmené par les équipiers de Peter Sagan. Peter Sagan est aussi pour Max Pedersen, peut-être en bonne position, qui va être emmené par Jasper Stuyven est le premier devant Max Pedersen. Derrière, il y a Wout Van Aert et son maillot vert. Encore un exploit peut-être du géant vert. Il y a aussi peut-être un coureur Tolien Dylan Groenewegen qui est revenu sur la gauche. Il est un petit peu bloqué. Il y a Jasper Philipsen est là avec toujours Jasper Stuyven qui emmène pour Max Pedersen, le champion du monde 2019. Il est à la lutte avec Wout Van Aert. Il est à la lutte avec Jasper Stuyven, avec Jasper Philipsen plus exactement sur la droite de la route. Ça y est, encore la photo finish. Pour moi, c'est Philipsen qui l'emporte. Philipsen devant Wout Van Aert et Mats Pedersen. Quelle finale incroyable. Pas de victoire française encore aujourd'hui à Carcassonne.
Terrible désillusion pour Benjamin Thomas qui s'est fait croquer à 500 mètres de la ligne après un effort incroyable du coureur français de la formation Cofidis. C'est terrible ça, Cyril, de se faire croquer comme ça, mais il lui en manquait quelques petites secondes malheureusement.
Ben, j'ai presque envie de dire, si Alexis avait pu rester 500 ou 600 mètres de plus, l'aider un peu plus, peut-être que ça le faisait.
Peter Sagan qui est là également, bien à l'affût. Florian Sénéchal était là aussi dans ce sprint. Ça joue entre les trois devant avec Mats Pedersen qui a un petit avantage à une vingtaine de mètres. Et puis finalement, c'est Philipsen qui se glisse juste devant Wout van Aert et Mats Pedersen. Je pense que Peter Sagan doit aller chercher la quatrième place. Il n'est pas très très loin. Peter Sagan quatrième et Florian Sénéchal qui est passé juste au dernier moment par un autre coureur qui doit finir sixième. Dylan Groenewegen était revenu, il était là, mais c'était pas suffisant aujourd'hui.
Non, c'était pas suffisant. L'effort qu'il a dû faire pour revenir sur le groupe maillot jaune lui a certainement coûté la victoire. C'était encore un peu chaud, hein, ce sprint. On a vu Philipsen est passé dans un trou de souris pour passer devant Van Aert et se donner une chance de gagner. Ça a frotté un petit peu aussi entre Van Aert d'ailleurs et Mats Pedersen. C'était très chaud. On avait Van Poppel, voilà, pour qui l'équipe Bora a roulé, qui vient faire cinquième.
Tout ça et pour ça, quoi, pour terminer cinquième. Ils ont condamné l'échappée en roulant pendant des kilomètres. C'est diable également.
Et il n'y a pas un Ineos dans le top 10 non plus.
Franchement. On est évidemment très déçus pour nos deux Français, Alexis Goujard qui a craqué dans le final, et surtout Benjamin Thomas qui s'est fait reprendre. Franchement, il l'a mérité celle-là.
Hein. Et si Alexis était resté avec, imaginez, mais Alexis Goujard jusqu'au bout, peut-être à deux, ça aurait été, ma foi, jusqu'à la ligne. C'est comme ça, c'est des fois la cruauté du vélo.
Il a manqué 400 mètres à Benjamin Thomas, lui, spécialiste de la piste. Ça fait juste 400 mètres. Un tour de piste, c'est tout ce qu'il a manqué aujourd'hui au Tarnais, c'est incroyable.
Ceci dit, il faut quand même dire que l'exploit athlétique qu'ont réalisé nos deux Français est absolument extraordinaire. Malheureusement, il a manqué un tour de piste et Philipsen l'emporte, mais c'est la course.
C'est toute la merveille du cyclisme aussi, et du suspense, voilà. Un suspense incroyable dans ces derniers kilomètres.
Non, vraiment, ils ont été formidables dans ces 40 derniers kilomètres, enfin, depuis le dernier classement de la montagne où ils sont sortis derrière. Les Français étaient à la hauteur, ou du moins deux étaient à la hauteur.
Exactement, Alexis Goujard, la formation BNB Hotel, et donc Benjamin Thomas, qui l'a manqué 400 mètres pour décrocher le premier succès français sur les routes de ce Tour de France. Déception évidemment, on aura la réaction de Benjamin dans quelques minutes, mais j'imagine que là, quand on termine comme ça, qu'on a tout donné, qu'on est allé au bout de soi-même, au bout de son effort, et qu'on se fait passer à 400 mètres, il va avoir du mal à se remettre d'un tel revers, hein, Christophe.
Ouais, c'est vrai qu'il a fait un sans faute, il a été jusqu'au bout, il a pris une bonne trajectoire, il est resté toujours bien, bien posé, bien uni. Malheureusement, il a manqué quelques encablures, petit 500 mètres qui a fait du mal. On voyait pas toujours l'arrivée, mais néanmoins, c'était un bel effort, un beau duo, et puis un beau final pour nos Français. Ça va venir, il ne faut y croire.
Ouais. C'est déjà le premier Français, termine 7e. Hein.
Ouais, et il faut préciser une chose, c'est vraiment pas la journée de l'équipe Jumbo, puisque Wout van Aert termine 2e. Il n'a pas réussi à gagner.
Troisième fois qu'il termine 2e sur ce Tour de France.
On le rappelle.
Avec deux succès d'étape quand même.
Primoz Roglic n'a pas pris le départ. Ouais. Kreuzweig a chuté, il a abandonné, ça fait deux cartes en moins. C'est vraiment pas une bonne journée aujourd'hui pour les hommes de Jonas Vingegaard.
Ouais, et Vingegaard qui a chuté, qui a avec quelques marques de cette chute sur l'épaule gauche. On espère évidemment pour lui que ce n'est pas trop grave. Il a pu reprendre la course, remonter dans le peloton et rester très attentif. A priori, il n'y a pas de gravité, hein, pour cette chute-là.
Non, ça avait l'air d'aller. Le maillot était sali, mais même pas déchiré. On verra, il nous donnera ses impressions dans la terre qui va venir juste après. Mais c'est jamais bon à la veille d'une journée, enfin c'est jamais bon de chuter tout court, mais à la veille d'une journée de repos non plus. On sait que les séquelles d'une chute, ça arrive souvent 48 heures après, ça veut dire à l'étape de foie. On va voir si vraiment il y a des dégâts ou pas, mais en tout cas, journée noire pour l'équipe Jumbo-Visma.
Jasper Philipsen, le coureur de la formation Alpecin, qui s'impose donc ici à Carcassonne, Pierre-Yves.
Et oui, lui qui avait levé les bras déjà une fois sur ce Tour de France, mais il avait oublié qu'il y avait un garçon devant lui qui avait gagné. Cette fois, il n'a pas eu le temps de lever les bras, ça allait tellement vite, mais il l'a bien emporté. Le Belge s'impose pour l'équipe Alpecin qui a fait le boulot, hein, tout simplement.
Qui a fait le boulot, et s'il y a un des sprinteurs qui mérite vraiment de gagner une étape, c'est quand même lui, hein, parce qu'il tourne autour depuis un bon moment. Tu l'as dit, il a levé les bras une fois, mais le Tour de France l'année dernière, il avait déjà fait des places sur le podium. Il tourne autour et là il gagne. Alors ça paraissait vraiment serré, mais finalement il y a quand même une demi-roue sur la ligne, donc il gagne quand même très bien ce sprint.
Et quatre des meilleurs sprinteurs de ce Tour de France sont donc été récompensés. On rappelle les deux victoires de Wout van Aert, la victoire de Jakobsen, la victoire de Groenewegen et aujourd'hui celle de Philipsen. Qui reste-t-il encore comme sprinter qui n'a pas décroché de bouquet? Peut-être Caleb Ewan.
Caleb
Ewan ou encore Alexandre, peut-être Alexandre Sagan, Christophe. Bon, avec Christophe, ouais. C'est moins ça quand même. Hein. C'est plus à la pointe du sprint.
Parti de la catégorie sprinter, on va dire.
Oui, tu as raison de signaler. Très bien. Classement général, donc pas de changement. Pierre-Yves, Vingegaard conserve son maillot jaune avec toujours 2 minutes 22 d'avance sur Pogacar. Mais s'il a toujours 2 minutes 22 d'avance, il a perdu deux équipiers essentiels dans la montagne. Primoz Roglic qui, l'autre jour, dans l'étape du Granon, avait mis le feu avec Vingegaard. Et puis donc Kreuzweig, victime d'une fracture de la clavicule a priori et qui a donc abandonné la course. On va se retrouver quasiment à égalité entre les Jumbo et les UAE dans les étapes de montagne qui arrivent à partir de mardi.
C'est vrai que la victoire de Philipsen, elle est importante évidemment dans l'histoire de ce Tour de France, de cette 109e édition, mais la grosse et les grosses informations du jour, elles sont là pour la lutte pour le classement général avec une équipe Jumbo terriblement affaiblie aujourd'hui avec ses deux abandons coup sur coup. Donc ça va relancer aussi ce Tour de France très certainement, puisque Pogacar maintenant un petit peu moins d'ennemis entre guillemets pour la lutte pour revenir sur Vingegaard.
Eh bien la lutte reprendra donc mardi, car demain journée de repos bien méritée pour tous les coureurs du peloton qui vont s'enfermer dans leurs hôtels sous la clim pour éviter la chaleur, la canicule, plus de 40 degrés aujourd'hui sur les routes du Tour, et ce sera la même chose demain. Mais demain heureusement il n'y a pas d'étape pour tous les coureurs. On est déçu évidemment pour Benjamin Thomas, mais tiens, alors on va écouter juste, il est là, Benjamin Thomas au micro de Kevin.
Oui, j'ai tout tenté, c'est le cas de le dire. Je suis parti de loin, plus loin que ce que je pensais. En fait, au début, je voulais faire juste les points pour le grimpeur, pour protéger le maillot de Simon. Et en fait, en gros, je me retourne, je vois qu'il y a Alexis Goujard qui m'accompagne. Et je me suis dit, pourquoi pas. Derrière, Trek avait fait beaucoup de boulot. Il y avait pas mal d'équipiers qui s'étaient écartés. Je me suis dit, je connaissais par cœur le final. Je savais qu'il s'était parti descendante, un peu de vent de face, mais qu'on reprenait le vent de dos à la fin. Donc, c'était parfait pour tenter le coup, et il a pas manqué grand chose. On coince un peu dans le final, et après je me suis retrouvé tout seul, donc c'était un peu long.
Vous êtes quand même vu lever les bras ou pas?
Franchement, j'étais tellement à fond que j'ai pas pensé un seul instant. C'était dans le final, c'était juste pousser tout ce que je pouvais, et je regardais les kilomètres défiler. À chaque fois je me disais, allez, 4 bornes, 3 bornes, 2 bornes. À la borne, j'ai fermé les yeux et j'ai poussé jusqu'à ce que j'ai pu. Et bon, malheureusement, quand j'ai vu le peloton déboulé, voilà, c'est tout qui s'écroule, mais j'ai cru, mais j'étais tellement à fond que j'étais concentré dans mon effort.
On a beaucoup reproché aux Français de ne pas assez tenter ces derniers jours, justement, là, vous avez tenté.
On peut dire qu'on a tenté, ouais. C'est dommage qu'on n'y a pas de grands sprinters français ici, donc on est obligé de tenter dans les échappées. Et aujourd'hui, c'est pas passé loin et il y aura d'autres opportunités la semaine prochaine.
On était chez vous, vous nous l'aviez dit. Vous avez senti d'encouragement sur le bord des routes?
Oui, j'ai entendu que ça dans les derniers 40 km. Ça m'a poussé, ça m'a déchaîné. Et je remercie tous les gens qui étaient au bord de la route, ça fait plaisir.
Merci Benjamin.
Voilà Benjamin Thomas, le grand malchanceux du jour, mais le grand bonhomme de cette étape. Il s'est fait rattraper, s'est fait croquer par le peloton à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Étape remportée par Jasper Philipsen, le Belge de la formation Alpecin. On se retrouve dans une heure, messieurs, hein, si vous le voulez bien, pour débriefer cette étape.
On va s'hydrater.
On va un peu s'hydrater, on va un peu prendre l'air, parce que là il fait à peu près 35 degrés dans le studio RMC. Et on va passer le relais à Simon Dutin. À Paris, il fait bon hein Simon, tout va bien?
Ah, en studio, il fait bon dans le 15e arrondissement, mon cher Christophe. Mais c'est vrai que ça ne chaufferait pas un petit peu dans la caravane? On va voir, Christophe, à partir de 19h dans l'after tour, si vous êtes toujours aussi confiant pour ce Jonas Vingegaard, maintenant qu'il a perdu ses deux porte-flingues, là, Kreuzweig et Roglic, là, vu que apparemment il avait déjà course gagnée.
Vous nous direz ça. Mano à mano désormais, Simon.
Voilà. Et on a hâte, hein, on ne va pas se le cacher. Hein. Bon, journée de repos avant, elle a été bien méritée pour les coureurs. Et pour vous, messieurs, vous préparez bien vos arguments, on vous retrouve dans l'after tour. Nous, notre tour à nous, c'est celui de l'actualité sportive dans son ensemble. On vous emmène dans un instant sur les traces du Paris Saint-Germain qui débute un stage de pré-saison devant les yeux des observateurs et des partenaires. Hein, faut pas se le cacher, au Japon, qui ont été gâtés tout de suite après l'arrivée des Paris. On sera avec Arthur Perrault dans un instant, le Mercato Show, toutes vos infos au transfert. Un petit point évidemment avec le Druide, Cyril Guimard à 18h30. Et puis ces mondiaux d'athlètes avec ces Français. Français qui font bonne figure. Et ce vainqueur du 100 mètres, ce triplé américain, on ne sait pas grand-chose de ces Américains. Est-ce que on a les nouvelles stars du sprint mondial ou pas? On sera avec Aurélien Tersin dans un instant. On vous attend sur RMC Intégral Sport 18-19. À tout de suite.